C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant sur Vivre FM.
L'INRAP fête ses 20 ans. L'INRAP qui gère les fouilles préventives en France. Et ses archéologues ont réalisé près de 50 000 opérations archéologiques en France métropolitaine. Des fouilles qui renouvellent les connaissances de notre passé. Des fouilles dont on va parler tout au long de cette émission avec des sites très intéressants, des sites à découvrir. Nous sommes avec Cyril Leforestier, archéo-anthropologue. On va tout vous dire sur Vivre FM.
Vous écoutez Vivre c'est épatant avec Carole Clémence.
Bonjour Cyril.
Bonjour.
Vous êtes archéo-anthropologue, ça veut dire quoi ?
Donc en fait, donc à l'INRAP, comme en archéologie, il y a énormément de spécialistes. Donc moi, mon domaine, en fait, c'est m'occuper des sépultures, donc du monde funéraire, lorsqu'on va fouiller sur des grosses nécropoles, par exemple. Donc c'est un métier qui concerne à la fois les phases de terrain. Donc on intervient directement sur les nécropoles pour fouiller, pour exhumer en fait les squelettes qui sont enfouis dans la terre. Et ensuite, donc une partie en laboratoire où on va étudier chaque squelette pour essayer de voir l'âge qu'il avait, le sexe, les maladies, les problèmes alimentaires. Donc plein de différents petits éléments permettant de comprendre la vie d'individus.
Oui, oui, c'est très important. Est-ce qu'on trouve beaucoup de squelettes en cours de fouille ? Est-ce que c'est, vous avez cette chance ?
Alors ce qui est bien, c'est qu'en archéologie, on tombe souvent sur des squelettes parce que du coup, forcément, l'homme est tout le temps mort. Donc il y a énormément de sépultures dans le sous-sol. Donc en général, sur un chantier, on tombe toujours sur une sépulture. Et en effet, il y a pas mal, en fait, en Île-de-France, même partout sur le territoire, énormément de nécropoles de toutes les périodes. Donc il faut être amené à connaître un peu l'histoire de chaque période pour étudier correctement un ensemble funéraire.
Oui, oui, oui. Alors on en parlera, on y reviendra tout à l'heure. Mais je voulais qu'on explique, l'INRAP, c'est une association, c'est ça, qui gère des fouilles. Préventive. Alors qu'est-ce que c'est des fouilles préventives ?
Alors donc du coup l'association, non, c'était une association avant l'INRAP, on avait affaire à une association pour les fouilles archéologiques nationales créée en 1974, donc une association vraiment de gens passionnés par l'archéologie et donc justement l'INRAP c'est quelque chose de professionnel, donc en 2001 on a pu avoir...
C'est une entreprise ?
C'est un institut national, donc, qui est rattaché au ministère de la Culture et de la Recherche, et donc de l'État. Et donc, ça permet en fait, de fouiller partout sur le territoire et d'avoir une vision globale de tous les sites nationaux.
Oui, et alors préventif, ça veut dire quoi ?
Alors en France, en fait, on a deux modes de fouilles. Donc à l'inverse des années 1900, où il y avait uniquement de l'archéologie tout simplement, où on fouillait un peu où on voulait, on fouillait un peu ce qu'allait détruire, ce qui va être découvert. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que depuis la loi sur le préventif, c'est qu'on va en fait travailler, on va exhumer les sites avant qu'il y ait une destruction de l'occupation. Par exemple, si on fait une autoroute, si on fait un immeuble d'occupation, un parking, une piscine municipale par exemple, on sera amené à venir faire des fouilles sur le terrain pour en fait dégager l'archéologie du sous-sol, pour la comprendre, pour la documenter. Et ensuite, une fois qu'on est parti, qu'on a fait des centaines de photos, des milliers d'enregistrements, on peut quitter le terrain, le cœur léger, sans avoir massacré la parcelle. Et donc enfin, après ça, les bulldozers peuvent commencer à intervenir pour construire les choses du présent. Parce qu'on n'est pas uniquement, on ne fait pas que de la recherche, on est là également pour l'avenir, et on n'est pas là pour empêcher les constructions de se faire.
Oui, en fait, le site, il est détruit. Une fois qu'on construit un parking, un building ou autre chose, le site il est détruit, donc il faut recueillir très rapidement les informations.
Voilà, alors qu'en effet, il y a un siècle, le site était détruit et il n'y avait quasiment rien de fait dessus. Il y a même 50 ans de ça, hein, c'était rare que les sites soient exhaustivement fouillés. Maintenant, la loi en fait, de 2001 impose en fait, qu'il y ait des fouilles archéologiques sur chaque construction dans le monde idéal. Et donc, même si là, en effet, quand on va fouiller, c'est forcément un acte destructeur, on va détruire le site, mais pour autant, il y a plusieurs manières de détruire les choses. Il y a détruire sans du tout documenter le site, ou il y a détruire en documentant le plus complètement possible en fait une occupation, et donc on repart en fait avec énormément de données permettant de comprendre le site, et après sur une ville par exemple, on est capable de mettre bout à bout les différentes opérations et d'avoir une synthèse de l'occupation humaine sur un territoire.
Oui, est-ce qu'il arrive que le site que vous fouillez par hasard, parce que par exemple il va y avoir une autoroute, un parking dessus, le site est tellement bien, tellement grand, tellement long à fouiller que finalement il n'y aura pas ce parking, il n'y aura pas cette autoroute à cet endroit-là?
Alors c'est politique ça en fait, ça c'est même pas du ressort directement de l'INRAP, hein. Disons, mais en général le but n'est pas forcément pour le promoteur, pour l'aménageur de laisser le site visible, mais des fois il arrive que devant l'ampleur en fait des découvertes, comme dans le sud de la France avec les villas gallo romaine, avec certaines mosaïques, on est amené à conserver ça. Donc c'est pas du tout une volonté, c'est une volonté de l'INRAP, oui, évidemment, mais c'est vraiment la volonté du propriétaire du terrain qui peut des fois s'arranger avec les personnes de la ville pour racheter une partie du terrain ou pour aider à contribuer justement à présenter le site au grand public. Et du coup, ça fait aussi une belle image de pub pour le promoteur de dire, vous voyez, je ne construis pas à ce niveau-là, je ne construis pas cette parcelle-là, mais je vais mettre en valeur le patrimoine qui a été découvert. Et bon, même si c'est assez rare, ça arrive quand même que des fois, les aménageurs prennent en compte le patrimoine archéologique de leur parcelle.
Oui, mais c'est rare.
C'est rare.
Et donc, plus on construit en France, plus on détruit de sites. Alors, d'où l'importance de votre travail en amont.
Donc voilà, c'est qu'un jour, en fait, en 2144, par exemple, on pourra se dire, bah, hier, on a fouillé les 3 700 000 sites en France, et donc, il n'y aura plus rien à fouiller. Ce n'est pas une science qui est renouvelable. On ne peut pas renouveler l'archéologie une fois que le site est détruit ou que le site est fouillé. Bah, c'est one shot, on a le droit à une seule chance, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas revenir dessus après. Et on verra peut-être après, au fur et à mesure qu'on parle, qu'on peut quand même revenir malgré tout sur les sites d'une manière peut-être informatique ou un peu en trois dimensions. Mais normalement, en effet, une fois qu'on est parti, le site est voué complètement à disparaître. Et donc, il n'y a plus de vestiges, en fait, de présent. Donc, c'est pas une science qui est renouvelable, alors que bon, les constructions immobilières sont renouvelables. On peut construire autant d'immeubles qu'on veut si on détruit le précédent. Là, l'archéologie ne se fait que maintenant. En fin de compte, nous, quand on parle, on est en train de créer de l'archéologie aussi. On a des micros, on a des écrans, donc ça va aussi être, à un moment donné, peut-être enfoui dans la terre. Et donc, on crée de l'archéologie de l'avenir, mais l'archéologie du passé, par contre, celle-là, elle est figée et non renouvelable.
Oui, alors d'où cette importance, comme on va l'expliquer tout au long de cette émission, ces fouilles préventives, puisqu'on détruit ces sites qu'on ne retrouvera plus par la suite. Il y a aussi d'autres difficultés. Vous êtes confronté à des gens qui détruisent le site par intérêt, par curiosité aussi. Je parle des détecteurs de métaux.
Oui, alors ça c'est un gros problème en France, c'est que il y a un vide juridique assez important là-dessus. C'est qu'en fait, la détection, les détecteurs de métaux, ce n'est pas un loisir. Hein. Normalement, c'est uniquement pour détecter justement des sites archéologiques, enfin détecter par l'archéologie, par les gens professionnels. Et donc, il y a une loi de 89, donc il y a maintenant près de plus de 30 ans en fait, qui stipule qu'il faut forcément autorisation double, hein, à la fois de l'État et à la fois des propriétaires du terrain, qu'on ne peut pas aller où on veut n'importe quand. Et même si le paysan du coin décide de laisser le champ libre à des personnes qui veulent passer dessus, comme on dit, la poêle à frire, même si le propriétaire accepte, il faut quand même que l'État, que les services de l'État, donc la DRAC, le SRA, donc les services, la Direction régionale des affaires culturelles, autorise en fait la personne à venir sur le champ pour passer sa poêle à frire, puisque du coup, lorsqu'on va venir sur un terrain comme ça, sur un champ, avec ce matériel-là, on va faire résonner le métal, et donc les personnes vont forcément creuser un peu. C'est rare qu'il y ait des choses qui apparaissent au premier niveau de terre, et donc en creusant, bah, on peut creuser des fois sur 20 cm, ce qui est déjà dommageable. Hein. En général, les sites apparaissent assez haut en fait en archéologie. À 30-40 cm, le site apparaît. Et donc, si la personne creuse davantage, en fait, ça va abîmer la stratigraphie supérieure. Et donc, ça va empêcher l'archéologue, ça va le gêner si un jour il y a une fouille pour comprendre les niveaux supérieurs de l'occupation. Donc, c'est très dommageable d'avoir ce genre de personnes qui font ça. Et donc, sous en fait le prétexte du loisir et qu'ils ne vont pas détruire le site, bon, en fait, si, ils détruisent quand même le site. Donc, espérons que bientôt, c'est en pourparler, que bientôt, en fait, ce soit bien plus encadré et que ce soit pas forcément en vente libre.
Oui, oui, alors les détecteurs sont en vente libre, ouais. Mais l'utilisation dans des champs, voilà, pour trouver quelque chose, c'est ça, c'est illégal.
C'est complètement illégal. C'est un peu comme le drone, en fait. On a l'impression qu'on peut acheter un drone et survoler n'importe quoi tout de suite avec un drone. Mais non, il faut passer un permis de drone, il faut autorisation de survoler certaines habitations. C'est pas du tout libre pour tout le monde, en fin de compte, et n'importe comment. C'est comme tout, en fait, hein, comme une voiture. On peut pas prendre une voiture si on n'a pas de permis de conduire. C'est pareil, pour utiliser une poêle à frire, il faut être autorisé et il faut savoir le faire. Et il faut être dans un cadre, en fait, archéologique bien réglementé, comme l'INRA, pour les collectivités territoriales, peuvent également utiliser ce type de matériel.
Oui, et pourtant, les gens qui le font ont l'impression d'être en toute légalité. Ils pensent qu'ils font bien.
Alors, ce qui est bien, c'est qu'en archéologie, on a une communauté assez dynamique un peu partout en France. Et donc, souvent, en fait, dès que le détectoriste va retrouver pour sa première fois une pièce de monnaie, il va souvent l'amener à des collègues. Et donc, assez rapidement, en fait, les archéologues sont au courant de ça. Et assez rapidement également, la personne qui utilise le détecteur de métaux est assez vite au courant que ce n'est pas légal et que c'est un vrai métier de pratiquer ça. Ce n'est pas comme une partie de Scrabble le week-end en famille.
Oui, oui, oui. On continue à parler de ces découvertes archéologiques. L'INRAP fête ses 20 ans, donc vous êtes arrivé à l'INRAP justement il y a 20 ans au tout début. Vous allez pouvoir nous en parler, Cyril Leforestier.
Vous écoutez Vivre c'est épatant
avec Carole Clémence.
Et on parle d'archéologie jusqu'à 13h45 avec Cyril Le Forestier, archéo-anthropologue. Il nous explique comment il fouille. Alors depuis 20 ans, vous êtes à l'INRAP qui fête justement ses 20 ans. Cyril, vous fouillez avant, j'imagine, vous n'avez pas commencé à l'INRAP. Comment se passe une fouille, par exemple, une fouille que vous avez, un site que vous avez pu fouiller? Racontez-nous de A à Z comment ça se passe.
D'accord, donc par exemple là si on prend un cas qui me tient à cœur parce que du coup je fouille beaucoup dessus depuis près de 15 ans, donc c'est à Annoisy-le-Grand, on a une nécropole et donc au départ en fait, donc le principe est assez simple, c'est qu'un promoteur a voulu construire un immeuble d'habitation sur une parcelle et donc il a déposé un permis de construire en préfecture, ensuite le permis est remonté au service de l'État, donc au service de la DRAC, qui a lancé un diagnostic puisque du coup l'INRAP s'occupe à la fois des diagnostics archéologiques et des fouilles préventives, donc il y a un double volet et donc seul le service public, donc collectivité et INRAP sont amenés à faire les diagnostics archéologiques et donc nous on vient sur le terrain, on va faire des tranchées dans la terre, on peut en faire 3, 4, 5, ça dépend de l'emprise de la parcelle et en fonction de ce qu'on trouve dans les tranchées, on va lancer ou pas une fouille et donc la tranchée, donc c'est une tranchée de 2 mètres, c'est assez rapide à faire et donc on regarde, on fouille un peu, on fait un échantillon en fin de compte des différentes tranchées. Après on essaie d'analyser ce qu'on retrouve, donc par exemple à Annoisy-le-Grand, on a trouvé un peu de sarcophage en plâtre, un peu d'ossements humains, donc on s'est vite rendu compte que s'il y a plusieurs ossements humains, s'il y a plusieurs sépultures, on a affaire à une nécropole et donc à la suite de ça, nous sommes revenus en laboratoire, on a fait l'étude justement de ces squelettes là, des sarcophages en plâtre, également du mobilier. Et donc l'étude nous a permis de caractériser le site, donc d'apporter une chronologie à ce site-là et d'apporter une caractérisation. Donc là, pour le coup, on avait une nécropole du Haut Moyen-Âge. Et donc, ben voilà, on a lancé, en fait, après, on a fait le petit rapport de ce diagnostic-là. Et ensuite, il y a eu une fouille sur la parcelle. Donc là, depuis 2003, il y a une mise en concurrence de l'archéologie. Donc on a proposé, en fait, un dossier au service de l'État qui a accepté donc, le dossier de l'INRAP avec un groupement d'opérateurs avec le département de la Seine-Saint-Denis. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut s'allier en fait, entre opérateurs du service public. Donc là, c'est une opération qui était à la fois INRAP et à la fois département.
C'est-à-dire que l'INRAP fouille, mais il y a d'autres structures, d'autres entreprises qui peuvent fouiller également. Il y a des appels d'offres, c'est ça?
Voilà, donc en fait, donc, à la suite de ce diagnostic-là, il y a eu un appel d'offres pour faire la fouille. Donc c'était en 2007. En 2007, il n'y avait pas beaucoup encore d'opérateurs privés sur le marché. C'est venu un peu plus tard, vers les années 2010. Donc là, en fait, ben, on a eu l'opération. Donc on a commencé en 2008 et qu'on a fini en 2009. Donc après, une fois qu'on a l'opération, ben, on va avoir un budget. Et donc avec ce budget-là, donc c'est comme n'importe quel travaux de construction, c'est qu'il faut que nous, on prévoie nos pelles mécaniques, nos camions pour évacuer la terre, nos chemins de planche par exemple, le personnel également qui va venir fouiller. Donc on va budgétiser tout ça et donc vraiment comme un véritable métier. Alors qu'avant, 20 ans avant, c'était pas vraiment ça. On s'arrangeait comme on pouvait avec beaucoup de bénévoles. On fouillait des fois le week-end. Donc là, ce qu'a fait l'INRAP et ce qui fait que l'INRAP est là depuis 20 ans, c'est qu'on a fait de cette passion un véritable métier qui est également une passion et donc du coup on est amené sur cette fouille là de Annoisy-le-Grand en fait à dégager près de 600 sépultures en un an de fouille, donc c'est énorme et donc l'intérêt voilà c'est de mener à bien entièrement l'excavation, de finir complètement le site et donc une fois qu'on est parti on n'a rien laissé sur le chantier que des trous qui étaient vides, donc pas la peine de laisser pour le public des trous vides, on a donc documenté tout ce qu'il fallait et ce qui est bien c'est qu'on a pu amener beaucoup de public sur le terrain, beaucoup de visiteurs, on a accueilli près de 2000 personnes en 2008-2009 sur le terrain, donc ce qui permet en fait voilà, d'impliquer les gens d'une commune en fait, dans leur patrimoine archéologique. On n'est pas juste des videurs de trous et des collecteurs de trésors, on est aussi et même surtout en fait, des grands communicants. On aime beaucoup restituer au public local leur patrimoine.
Oui, et cette fouille, elle a toujours lieu? Ce site, il est toujours ouvert, toujours accessible aux fouilleurs?
Donc la première étape en effet en 2008-2009 en préventif, ensuite une deuxième phase en préventif en 2017 et justement donc la mairie de Annoisy-le-Grand voyant l'intérêt du public pour toute cette archéologie nous a laissé une parcelle, donc qui n'était pas du tout en danger, donc là les deux parcelles d'avant étaient en danger parce qu'il fallait construire des choses.
Donc c'était fouille préventive, il fallait se dépêcher de fouiller pour que la construction puisse avoir lieu.
Voilà, donc en fait il a fallu au départ apporter du temps et de l'argent pour fouiller, donc on a fini dans les temps, donc il fallait se dépêcher, en général on sous-estime souvent les vestiges, donc on fait des budgets un peu moindres que la réalité, donc en effet comme vous dites il a fallu se dépêcher un peu pour finir, pour pas qu'on ait les tractopelles derrière nous quand on finit les dernières fouilles. Mais en général, maintenant, on arrive assez bien à avoir une vraie idée justement du budget et du temps qu'il nous faut. Et donc justement, après, on a pu passer en un mode différent de fouille qu'on appelle les fouilles programmées, où là, on n'est pas sur une parcelle qui est en danger. Et ce qui est bien, c'est que l'INRAP est un institut de recherche, n'est pas uniquement un institut de fouilles de sauvetage. Et donc l'INRAP a contribué également en mettant des personnels à disposition sur la fouille programmée pour justement former les gens, former les étudiants de Paris Paris 1 par exemple, ou des étudiants qui viennent de toute la France, et donc avec toujours le même volet de médiation, de rendu au public des choses. Et donc c'est comme ça qu'on a pu passer du préventif au programmé, toujours avec l'INRAP. Et donc c'est assez intéressant quand on est archéologue de fouiller également les sites rapidement, parce que ça fait un peu comme un challenge de pouvoir vite fouiller un site archéologique, mais c'est également très agréable de pouvoir prendre le temps en fait de se poser vraiment, de faire presque comme on faisait il y a un siècle en fait, de pas se dépêcher de fouiller. Et donc là on peut collecter énormément de données qui sont intéressantes, et on voit qu'il n'y a pas forcément de différentes données en plus ou en moins que par rapport à une fouille préventive. Donc ce qui est rassurant, c'est-à-dire qu'en fouille préventive on fouille aussi bien qu'on fouillerait en fouille programmée, sauf qu'on a, on a un peu plus de temps pour former les gens. C'est ça qui fait vraiment la différence entre préventif et programmé.
Oui, oui. Et alors cette fouille programmée à Noisy-le-Grand, enfin cette fouille depuis le début donc, qu'est-ce que vous avez pu en découvrir? Qu'est-ce qui en ressort justement sur cette population du Haut Moyen-Âge?
Alors ce qui ressort, c'est ce qu'on voit à peu près partout en Ile-de-France, c'est qu'on a une population qui est plutôt assez bien lotie en fait à l'époque mérovingienne. C'est encore l'aristocratie locale qui dirige un peu les alentours.
C'est quel siècle à peu près?
Donc là, on est vers 500, 600, 700, en fait, au temps de Clovis, en fait Clovis d'Agobert, qu'on appelle faussement les rois fainéants. Donc c'est juste après l'Antiquité, juste après la chute de l'Empire romain. Progressivement, en fait, des aristocraties vont prendre davantage de pouvoir. Et donc c'est ce qu'on va avoir justement en Ile-de-France, où donc les aristocrates locaux vont un peu diriger le secteur. Et ça va être plus le même moment où va arriver l'Église réellement, va arriver le pouvoir de l'Église qui va de plus en plus être prégnant dans le paysage. Et donc c'est une période qui est très intéressante, puisque du coup on change de structure politique, de structure sociale également, de structure religieuse. Donc on a comme ça une grande diversité en fait de choses à étudier. C'est ça qui fait que c'est une période très originale. Et on voit par contre vers l'an 800-900 une dégradation des conditions de vie. Il y a beaucoup plus de maladies, il y a beaucoup plus de carences alimentaires, la mortalité est beaucoup plus dans les classes jeunes de la vie. Donc il va y avoir en fait une déperdition d'un bon mode de vie au profit d'une vie un peu plus difficile. Et ensuite on va avoir la peur des grandes invasions scandinaves, et ensuite voilà, on va avoir pas mal de maladies qui aboutissent en fait à la fin du Moyen-Âge, à la grande peste noire, où là donc on va avoir vraiment une hécatombe. Et donc on va comme ça en fait se prolonger justement, on va pouvoir analyser chaque type de population en fonction de chaque siècle. Et ça, on n'a pas ça dans les livres d'histoire. Et si oui, on fait un peu d'histoire, les cartulaires ou alors toutes les généalogies des rois, on n'a pas ce genre de détails en fait. On va beaucoup parler de Charlemagne et de ces grandes périvéties guerrières, mais par contre on parle très très peu en fait du vrai peuple, du peuple qui a vécu dans ces contrées-là. Et nous, donc on est capable en fait de faire revivre un peu ces populations qui n'ont pas laissé de traces écrites, et pourquoi ils ne pouvaient pas écrire. Et donc on est capable en fait de les comprendre malgré leur silence dans l'histoire. Et oui, ça c'est intéressant justement.
Et est-ce qu'on peut définir que les populations communes, donc pas les aristocrates, mais les populations normales du haut Moyen-Âge vivaient mieux que celles du bas Moyen-Âge ou de l'an 1000 par exemple?
Alors en fait, c'est un constat qui est assez facile. J'ai pu travailler en fait sur des populations gauloises à Bobigny par exemple, comme des populations gallo-romaines comme à Meaux par exemple, ou à Tremblay en France. Et on voit réellement en fait que plus on avance dans l'histoire, plus ça se complique en fait. Donc l'époque gauloise est assez bien lotie. On a pas mal de populations qui sont en assez bonne santé. On a très peu de fractures osseuses. Par exemple, Bobigny, sur 515 sépultures, on a que une dizaine de fractures qui correspondent à la clavicule et au tibia. Donc c'est une fracture qu'on peut se casser. C'est des os qu'on peut se casser assez facilement. Tout comme l'avant-bras. Donc on voit en fait très peu de fractures, très peu de maladies liées aux carences alimentaires. Et quand on compare avec les restes qu'il y a dans l'habitat, donc les restes de consommation animale, on voit qu'on a du bœuf, du mouton, on a pas mal d'animaux, donc de la chèvre, également du cheval, du chien qui sont consommés. Donc on a en fait une kyrielle d'alimentation très variée, très différente. Et donc on voit au fur et à mesure en fait se dégrader un peu l'état sanitaire des populations. À l'époque gallo-romaine, ça va encore, on peut manger plutôt bien à sa faim. Et c'est réellement en fait quand on approche dans les périodes où vers le 6e, 7e, 8e siècle, où on va avoir l'Église qui va prendre un peu plus de partie des récoltes, qui va un peu plus mettre
ce
la main
mise. Ce sont les impôts,
en fait.
Oui.
Ce sont un peu les impôts, voilà. Oui. Et donc, en fait, il faut absolument, pour le salut de l'âme, donner beaucoup de choses à l'Église. Donc, on va faire beaucoup de dons à l'Église pour son salut personnel. Et donc, on va, en fait, avoir de moins en moins de choses pour soi-même. Et tout ça, en fait, on va le voir, en fait, encore à l'époque du bas Moyen-Âge, donc entre l'an 1000 et l'an 1500. À l'époque moderne, ça va être pareil. On va avoir des grands cimetières où il y a énormément de maladies, où il y a des maladies visibles sur le squelette, mais également des maladies comme la variole ou comme le choléra ou comme la peste noire par exemple, qui sont connues par les textes et qu'on peut voir plus ou moins sur le squelette, et surtout qu'on voit maintenant On parle d'ADN ancien. Donc l'ADN ancien maintenant est un grand secours pour comprendre ce qu'on n'arrive pas à voir sur le squelette humain. Et on voit donc en fait réellement une reprise en fait de l'activité d'espérance de vie de l'homme vers 1800. Donc 1800, c'est presque l'année en fait de l'invention du vaccin contre la variole. Et donc du coup, on va avoir en fait au fur et à mesure une espérance de vie qui va remonter, avec également l'essor économique. On va avoir pas mal de transports, donc pas mal d'échanges, pas mal d'alimentation qui peut se déplacer un peu. Les gens vont aussi beaucoup plus se déplacer, donc il va faire qu'on va gagner un peu en espérance de vie jusqu'à aujourd'hui. Donc en fait, c'est comme une parenthèse entre l'an 500 et l'an 1800, et maintenant ça reprend véritablement avec une espérance de vie qui est galopante. Merci la médecine moderne.
Oui, oui. Et alors ça, on le voit pas dans les textes. Ça vous l'apprenez par l'archéologie, par l'étude du terrain.
Donc tout ce que je vous ai dit, là, en fait, sont presque 2 millénaires et demi. Donc on pourrait même remonter plus loin à l'âge du bronze également, au néolithique. Hein. C'est qu'on voit en fait, oui, tout ça, on peut pas du tout le voir avec les textes parce qu'il n'y a pas toujours de textes de disponibles, même quasiment jamais. Et donc c'est uniquement l'étude du squelette humain en fait dans sa globalité, des articulations, l'étude des maladies, l'étude dentaire également. Grâce à ça, on peut comprendre justement le mode de vie des populations anciennes.
Oui. Et alors, sur ces nécropoles que vous fouillez, donc ces cimetières, vous fouillez toutes les périodes. Est-ce qu'il y a des périodes où on retrouve beaucoup plus d'informations sur la personne enterrée?
Donc, ce qui est bien, c'est qu'à l'INRAP, on est amené, ce qui est assez jouissif, en fait, on est amené à fouiller autant des sépultures néolithiques de l'âge du bronze que des sépultures modernes d'un couvent, par exemple, de Carmélite. Donc, c'est bien, c'est que c'est assez enrichissant. On n'est pas cantonné à une période. Bon, de plus en plus, maintenant, les chercheurs ont envie de travailler sur une période particulière et pas forcément de se disperser, bien que ce soit assez difficile. Et donc, en fait, on se rend compte qu'il y a une grande évolution des pratiques funéraires dans l'histoire. Si on regarde, par exemple, la période préhistorique, au paléolithique, on va avoir des sépultures avec donc des dépôts de coquillages à l'intérieur, et ça va surtout en fait des sépultures individuelles, on va avoir une seule personne à chaque fois, et après on va voir en fait l'évolution des parties funéraires changer, et au fur et à mesure on va avoir des sépultures collectives. Donc par exemple au néolithique, on va enterrer les gens dans un même endroit, donc une grosse fosse avec des parois avec du bois à l'intérieur, et donc on va déposer les cadavres en général par un côté ou par le haut, déposer les cadavres au fur et à mesure. On peut avoir jusqu'à une centaine de cadavres déposés, enfin de cadavres qui deviennent squelettes, et on voit même que les gens des fois descendent dans la structure de la sépulture collective, vont repousser les ossements de ceux d'avant, une partie des ossements pour mettre un nouveau cadavre. Et ça, en fait, on a ça partout en France, c'est comme une culture qui va arriver à un moment donné, comme une conception de la mort qui va être comprise et acceptée par tout le monde. Et donc on va voir nous ces sépultures là et pour fouiller, c'est assez agréable de fouiller comme ça plein de corps, en fait, de squelettes enchevêtrés. Ça fait bien travailler le cerveau, ça permet de comprendre
c'est
en fait qui est avec qui, voilà, c'est comme un puzzle, et c'est assez intéressant. Dès qu'on fait l'anthropologie, on aime bien en fait essayer de voir qui marche avec qui, essayer de voir comment fonctionne une structure funéraire. Ensuite, si on avance dans le temps, on va avoir l'âge du bronze, on aura des sépultures plutôt aussi individuelles, on va avoir la crémation qui va commencer à arriver, donc on va brûler les corps. Avant, on inhumait uniquement les cadavres, mais à partir de l'époque de l'âge du bronze, on va commencer donc à les brûler, donc surtout vers moins 1500, moins 1000, on va avoir pas mal de crémation de corps qu'on va retrouver dans des petits vases en général, ou même directement dans un trou simple dans la terre.
Mais on l'explique ça, c'est un changement de population, ce changement de type funéraire?
Alors ça, c'est difficile à comprendre, à voir, c'est plutôt une vision des choses en fait, où ils vont en fait délaisser progressivement l'inhumation pour la crémation, mais ça reste pas très longtemps, puisqu'on va voir que depuis l'âge du bronze, on va avoir souvent un va-et-vient et même une simultanéité entre les crémations et les inhumations qui vont s'arrêter justement vers l'an 400-500. C'est un peu comme tout à l'heure les Mérovingiens, on va avoir une rupture. Bah là, en fait, l'Église va interdire les crémations, donc on va avoir un arrêt en fait de toute tentative de crémation de défunts, en fait, vers le 5e, 6e siècle.
Et alors, les Gaulois, ils inhumaient ou alors il y avait une crémation?
Alors, les Gaulois sont des grands joueurs, c'est qu'ils aimaient bien faire à la fois les deux, brûler et puis inhumer les personnes. Ils aimaient bien également manipuler un peu les cadavres. Il y a pas mal de sépultures qui sont assises, des sépultures qui sont comme sous une forme de tribunal, où on va avoir des squelettes qui sont effondrés au fond d'une fosse, qu'on va avoir plein de manipulations osseuses. Mais le Gaulois classique en Île-de-France va à la fois brûler ses morts et les inhumer. Il n'y a pas vraiment de distinction, on retrouve les deux assez facilement. Partout dans le reste de la France, on va surtout crémer, on va surtout brûler les cadavres. En Île-de-France, on va surtout les inhumer. Il y a un peu moins de crémation qu'ailleurs.
Oui, et on n'explique pas pourquoi. C'est une mode.
Non, voilà, c'est une question de mode local. Voilà, exactement. Oui. Le monde celte est très varié, donc il y a plein de petites micro-particularismes en fait régionaux en fin de compte qui vont permettre de voir des crémations et des inhumations.
Oui. Alors ça, c'est l'époque gauloise, gallo-romaine. C'est pareil. On inhume ou on incinère?
Alors, les gallo-romains, donc, en fait, on a un gros problème avec le 1er siècle et le 1er siècle avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, parce qu'on n'a pas beaucoup de défunts, en fait. Il nous manque cruellement, démographiquement, beaucoup d'individus. On ne sait pas où ils sont passés. On ne sait pas s'ils étaient brûlés et qu'on dispersait les ossements, non pas dans une fosse, mais ailleurs. Donc, on n'a pas retrouvé, en fait, assez d'individus pour qu'une démographie soit fiable. On a assez de Gaulois, enfin, par rapport à nos villages qu'on est amené à fouiller. Et pareil pour l'époque gallo-romaine, on a assez de personnes. Par contre, on a un gros déficit entre moins 100 et plus 100. On va essayer de comprendre au fur et à mesure les raisons de ça. On va travailler dessus. On devrait pouvoir arriver, je pense, à des conclusions.
C'est pas une baisse tragique de la population ?
C'est possible aussi qu'on ait une déperdition de population ou des migrations de population. Donc voilà, donc ça reste des vraies pistes à travailler. Et après, l'époque gallo-romaine plutôt classique, vers le 2e siècle, 3e siècle, là, on va être amené justement à avoir pas mal d'inhumations de corps et de crémation également. Et la crémation va disparaître progressivement vers le 3e siècle. Et donc, on va avoir en fait en Île-de-France, par exemple, et même partout en France, beaucoup d'inhumations entre le 3e et 5e siècle. Et le gallo-romain n'est pas avare des matériaux. Il va avoir des grands cercueils en bois, des énormes cercueils avec des énormes clous. Ils vont pas mégoter sur le fer. Pourtant, on n'est plus à l'âge du fer, on est déjà à l'époque gallo-romaine. Mais par contre, il y a énormément de mise en scène dans la tombe. On va avoir pas mal aussi de dépôts funéraires, donc pas d'offrande. Hein, l'offrande est propre aux dieux. Là, on va avoir des dépôts qui vont permettre à l'individu de faire le grand voyage vers l'au-delà. Et donc, pour le voyage, il lui faut une pièce dans la bouse, donc l'obol à caron. Il lui faut également de la nourriture pour qu'il puisse manger pendant son grand voyage vers l'au-delà. Donc, on retrouve, nous, assez souvent dans les sépultures gallo-romaines, des clous de cercueil, puisque du coup, le cercueil en bois a complètement disparu. Hein, le bois, la peau, le textile disparaissent. Il nous reste uniquement, en fait, ce qui va être minéralisé, dont les ossements et également la céramique et le fer. Donc, on a des clous dans la tombe et on va avoir également des céramiques qui vont être déposées avec l'individu, qui contiennent, en fait, les parties d'alimentation, en fait, pour le défunt.
Oui.
Et on va également avoir des pichets en verre. On peut avoir également des poules qui ont été déposées, en fait, pour le grand voyage. Donc, différents animaux, des petits cochons également. Et donc, nous, quand on est amené à fouiller ça, c'est assez aussi enrichissant de fouiller à la fois le squelette, les clous de cercueil, mais également les céramiques, les petits bouts de dépôt animal. Donc, c'est une sépulture très, très riche et très intéressante pour aboutir, en fait, après, comme on disait, aux sépultures mérovingiennes en sarcophage de plâtre ou en cercueil en bois. Et progressivement, en fait, les pratiques funéraires vont se simplifier. L'Église va imposer l'inhumation individuelle, alors que chez les Mérovingiens, on pouvait se faire enterrer à plusieurs personnes dans la même tombe, on avait le droit. L'Église a interdire également ça, et donc on va avoir au 8e siècle, donc 700, 800, 900, des sépultures beaucoup plus simples. On a juste un creusement dans une fosse sépulcrale et le cadavre qui est déposé en fait directement dans la fosse avec un linceul ou pas et avec un calage céphalique pour bien caler la tête. Donc on a comme ça en fait une.
Et il n'y a plus de dépôt funéraire, donc il n'y a plus d'objets qui entourent la sépulture pour vous apprendre, pour vous donner des informations sur sa vie.
Non, justement, donc en fait, quand on est archéanthropologue en fait et qu'on va fouiller sur des périodes après le 8e siècle, on s'attend beaucoup moins à trouver du mobilier dans la tombe, donc c'est aussi intéressant pour le squelette.
Ça, c'est l'Église, vous pensez ?
Et donc, en fait, l'Église conseille vers l'an 800-900 de plutôt faire un don à l'Église, de donner ses plus beaux habits, ses plaques-boucles, son épée, ses céramiques, ses beaux bols en bronze, de les donner à l'Église pour le salut de l'âme. C'est mieux de faire un cadeau que de laisser pourrir dans la tombe. Donc, c'est beaucoup plus intéressant, en fait, pour le défunt de faire des cadeaux avant et pour la famille, en fait, d'offrir des choses à l'Église. Et donc, nous, en archéologie, on retrouve en effet des fosses avec assez peu de choses dedans. Des fois, on trouve des céramiques, des fois, parfois. Ou des fois des petites boucles de chaussures, mais ça s'arrête là et il y a assez peu de choses.
Oui, et c'est dommage pour vous.
Pour nous, on préfère en général fouiller un petit peu de tout. En fait, c'est bien quand il y a un contenant funéraire, un sarcophage ou un cercueil, c'est bien quand il y a également du mobilier et le squelette humain, bien sûr, à la fin.
Oui. On va faire une pause, Cyril Le Forestier, et on revient avec vous parler de ces fouilles archéologiques, de ces sites funéraires.
Vous écoutez Vivre c'est épatant avec Carole Clémence.
On parle d'archéologie aujourd'hui. L'INRAP fête ses 20 ans, l'Institut National des Recherches Archéologiques Préventives fête ses 20 ans. Et vous, Cyril Le Forestier, archéo-anthropologue, vous êtes à l'INRAP depuis 20 ans également. Vous nous parlez de l'évolution de la recherche archéologique. Vous, quand vous avez commencé il y a 20 ans, on fouillait différemment d'aujourd'hui ?
Alors, c'est pas tant la fouille qui était différente, c'est plutôt les moyens d'enregistrement. Donc, il y a 20 ans, on fouillait comme maintenant avec une truelle, avec une pelle, une pioche, une brouette, un petit pinceau et un petit outil dentiste pour les sépultures, par exemple. Donc, la technique de fouille reste plus ou moins la même, en fin de compte. On fouille peut-être un peu mieux maintenant qu'on arrive mieux à comprendre les structures. On arrive mieux à fouiller un silo à grains, par exemple, qu'on arrive mieux à comprendre comment ça fonctionne. Par contre, ce qui va être changé, qui est vraiment différent avec l'an 2000, c'est qu'on a plus de méthodes pour correctement enregistrer nos données. Donc, on a des tablettes numériques sur le terrain. Pour les photos, en fait, on va prendre la photogrammétrie, donc des systèmes en fait d'enregistrement de plusieurs photos qui vont créer un modèle en trois dimensions permettant en fait, de restituer.
C'est-à-dire que par exemple une tombe, une fosse, vous allez pouvoir avoir une photo, enfin une représentation visuelle de toute la fosse.
Voilà, donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va prendre des tonnes de photos partout, une centaine par sépulture, et en effet, on pourra après, en laboratoire, restituer un modèle en trois dimensions de la sépulture. Donc c'est un peu comme si on y était.
Oui.
On peut rentrer dedans, en fin de compte, avec l'ordinateur, on peut rentrer dans la sépulture. Et donc l'intérêt par rapport à il y a une vingtaine d'années, c'est que même si on a fini la fouille, même si on a détruit le site, puisque dessus il y a un immeuble d'habitation par exemple, on est capable de revenir sur la sépulture plus tard, on est capable donc de la regarder à nouveau et de comprendre des choses qu'on n'aurait pas pu voir directement sur le terrain. Donc ce qui est intéressant, c'est, voilà, c'est de pouvoir revenir à la donnée archéologique un peu différemment, bien qu'on pouvait le faire très bien aussi avant. Il y a 20 ans, on avait pas mal de photos, on pouvait aussi bien documenter la sépulture, mais maintenant, on la documente beaucoup mieux qu'auparavant, en fin de compte.
Oui, donc là, il y a la photo qui a évolué. Vous utilisez des drones aussi?
Voilà, donc de plus en plus, en fait, on essaie d'enregistrer le site avec des drones. Donc, on va avoir des visions globales du chantier. Donc, ce n'est pas forcément, c'est pas véritablement pour travailler au quotidien qu'on va servir du drone, mais c'est beaucoup plus pour prendre des points topographiques, par exemple. C'est beaucoup plus rapide, en fait, de prendre par drone que de prendre à la perche, en fait, chaque petit point topographique. Et également, on a des vraies vues, en fait, du site archéologique. C'est un document de médiation aussi qui marche très bien, puisque l'INRAP a un grand volet médiation et pour mettre en avant son patrimoine archéologique. Et donc, on va avoir, comme ça, pas mal de photos à montrer au public, pas uniquement des photos de l'archéologue qui est en train de fouiller, et pas uniquement des photos d'un mur, mais des photos beaucoup plus hautes, en fait, pour que tout à chacun puisse comprendre réellement l'évolution du site et comment est-ce que le site est bâti, et surtout de voir la parcelle du site par rapport à l'environnement, en fait, dans la ville. Si on prend une vue assez grande, les personnes pourront voir leur maison tout près de chez eux, tout près du site, et donc de pouvoir localiser réellement le site dans leur territoire. Et ce qu'on veut toujours à l'INRAP et dans beaucoup de disciplines aussi en archéologie, c'est de voir justement, c'est de travailler sur le territoire et dans quoi s'implique l'archéologie. Et ça, on aime bien que le territoire soit restitué aux populations locales quand on fait de l'archéologie.
Oui, oui, c'est important de sensibiliser les gens qui vivent autour. Et alors, il y a d'autres évolutions, il y en a des tas, hein, mais au niveau de l'étude des squelettes, j'imagine que maintenant, on peut faire des études ADN qu'on ne pouvait pas faire auparavant.
Alors justement, ce serait presque une discipline qui a plus gagné en fait par rapport aux technologies. Donc par l'ADN, en effet, on peut rentrer dans l'intimité de la personne, on peut voir les liens de parenté en fait entre plusieurs sépultures d'un même secteur. Si on a des questions sur est-ce qu'on a affaire à un carré familial où les gens d'une même famille ont été enterrés, on pourra faire jouer dessus l'ADN pour travailler en fait sur les liens de parenté. Donc l'ADN, c'est pas forcément nouveau, ça existe depuis quand même plusieurs décennies. Ce qui est nouveau, c'est le prix. En fin de compte, c'est qu'avant l'ADN coûtait très très cher, comme le carbone 14 par exemple. Hein, quand on faisait le carbone 14 pour dater la sépulture, il fallait faire un bon choix sur une sépulture et pas sur toutes. Maintenant, on est capable de dater plusieurs sépultures par le carbone 14. Et comme pour l'ADN, on peut répondre à des questions assez facilement. Et donc là, depuis peu, en fait, le Musée de l'Homme a envie de créer une banque de données nationale de pas mal d'échantillons osseux humains pour faire de l'ADN, en fait, dans l'avenir. On pourra ressortir justement les ossements de telle ou telle sépulture pour une étude, en fait, pour une recherche sur un territoire donné. Donc là, ça avance beaucoup à ce niveau-là.
Ça pourrait faire de la généalogie, ce serait très intéressant, oui.
Donc c'est pas forcément le but directement de recréer un arbre généalogique national. Le but, c'est plutôt, en fait, d'essayer de voir s'il n'y a pas des maladies, par exemple, qui ont eu leurs origines en moins 1200 et pas forcément en moins 200. Donc c'est pour, en fait, essayer de comprendre comment ont évolué réellement les individus dans un territoire donné. Ça, c'est intéressant pour ça.
Oui, et on peut définir l'âge précisément de la personne décédée?
Alors ça, non. Par contre, c'est pas possible encore pour l'instant. Sur le squelette humain, il n'y a pas vraiment de distinction entre une personne de 40 ans et de 70 ans. Il n'y a pas de distinction sérieuse, scientifique. On pourrait dire que l'arthrose est un bon élément pour savoir qu'on a affaire à des personnes âgées. Mais on a des fois de l'arthrose à 25 ans. Hein. Moi, j'ai eu de l'arthrose assez rapidement.
Ça dépend du métier,
en fouillant,
oui.
En fait, les sépultures, on est souvent accroupi la tête dans la sépulture, du coup. Donc, on a souvent de l'arthrose au niveau des cervicales. Donc, si on étudie, par exemple, mon squelette, moi, archéologue, dans 2000 ans, on pourrait croire que j'en ai 70. Alors qu'en fait, non, pas encore.
Non, pas du tout.
Et donc, du coup, c'est intéressant, voilà, donc, de pouvoir regarder tout ça. Et donc, l'ADN permet de savoir toutes les maladies de l'individu, même s'il y a eu la peste, par exemple. Et permet aussi de voir le sexe de l'individu. Donc, l'ADN mitochondrial permet de voir homme ou femme. Et donc, comme ça, plein de maladies qui ont laissé une empreinte, en fait, dans l'ADN de l'individu et qu'on ne peut pas du tout voir sur le squelette humain physiquement.
Oui. Cyril Le Forestier, sur tous les sites que vous avez pu fouiller, toutes les nécropoles, donnez-nous deux ou trois souvenirs très, très marquants.
Alors bah forcément, donc le premier souvenir, c'est quand on commence à fouiller pour la première fois une sépulture. Par exemple, dans mon cas, je voulais pas forcément faire ça en fait de mon métier. Je voulais plutôt travailler sur les réseaux en fait urbains sur une commune, sur une ville. Et donc assez rapidement, dès que j'ai fouillé une première sépulture dans le Val d'Oise en 96, là, ça a fait comme un déclic. En fait, j'étais proche de la sépulture. Je voulais vraiment comprendre l'individu qui avait été enterré à cet endroit-là. Je voulais voir si c'était un homme, une femme, ses conditions de vie. Donc, du coup, ça m'a tout de suite fait briller les étoiles dans les yeux en voyant ce premier squelette-là. Et donc, ça, c'est une première chose qui marque. Oui. Ensuite, après, c'est surtout en fait par rapport aux sites que j'ai pu te ramener à fouiller qui m'ont plus ou moins choqué. Donc, il y a par exemple à Bobigny, sur une nécropole gauloise, il y avait une inhumation simultanée d'une femme et d'un enfant. Donc, pas forcément son enfant, mais il y avait une mise en scène de la mort entre une femme et un enfant. Il y avait l'enfant qui avait la tête qui reposait sur le bras de l'adulte, donc une vraie mise en scène des contemporains. Donc là, on imagine bien le soin apporté à la sépulture de ces deux personnes mortes simultanément. Et ensuite, voilà également une fouille que j'ai pu être amené à faire à Bondy, en Seine-Saint-Denis, où il y avait la seule sépulture de pestiférés en fait d'Île-de-France, parce qu'on n'a pas beaucoup de cas de pestiférés, bien qu'il y ait eu 25 millions de morts en fait en Europe. On a très peu de cas de pestiférés. Donc là, retrouvé comme ça en plein cœur de ville, dans une ville en fait de l'Est français, tombé sur une sépulture de pestiférés de 1348 avec dedans des hommes, des femmes, des enfants, et ben c'est forcément choquant, forcément oui. on a forcément un ressenti par rapport à tout ça, et donc ça marque assez en fait ce genre de choses-là.
Oui, pestiférés, c'était quoi? C'était la lèpre? C'était
pestiférés, donc c'est la peste en fait, la grande peste de 1348. On avait des épisodes de peste avant, et donc là donc c'est la Yersinia pestis, une grande maladie qui a fait énormément de morts et assez rapidement en fait dans l'Europe médiévale.
Oui, et on peut le voir ça sur le squelette, vous pouviez le voir vous-même à l'œil nu?
Donc justement, donc en fait on pouvait le voir. Oui, non, parce qu'on ne peut pas voir la trace, parce que du coup, la peste emporte les gens en 2 ou 3 jours. Donc, il n'y a pas le temps pour que ça marque sur le squelette humain. Oui. Mais par contre, à l'époque médiévale, comme l'Église interdit les inhumations multiples, interdit d'enterrer plusieurs personnes en même temps, vu que là, il y avait une fosse avec des hommes, des femmes, des enfants, c'est forcément un cas particulier. Donc, soit un cas isolé, un meurtre isolé d'une famille, ou soit c'est une épidémie. Donc, comme on voit des fois maintenant dans le monde encore, même pendant le Covid, dès qu'il y a eu beaucoup de morts au même moment, on a dû faire des fosses pour enterrer les gens en même temps, du coup, parce que c'était l'urgence de l'inhumation. Et donc là, c'est pareil, pendant la peste noire, il fallait vite enterrer les corps, tellement il y avait de corps, du coup, qui faisaient des grandes fosses pour enterrer justement les gens en même temps dans la même fosse sépulcrale. Et donc, on avait déjà quand même pas mal d'indices. En ayant une fosse multiple, des hommes, des femmes, des enfants, on n'avait pas forcément des soldats enterrés, comme pendant la guerre de 14, par exemple, ou pendant les conflits militaires. Donc on savait en fait qu'on était sûrement sur une épidémie. Et quand on a fait du carbone 14 dessus, on arrivait pile au 14e siècle, donc en plein dans la peste noire de 1348, oui. Et après de l'ADN, en fait, on a prélevé des ossements humains sur chaque individu, on a envoyé ça dans un laboratoire à Marseille, et donc ils nous ont dit qu'il y avait le bacille de la peste bien présent en fait dans le code ADN de l'individu, et donc tout ça regroupé ensemble avec à la fois la science archéologique classique de la fouille minutieuse des corps simultanés, à la fois les nouvelles technologies, l'ADN, le carbone 14, on a pu en fait tricoter en fait l'histoire de cette fosse sépulcrale qui avait accueilli plein de gens, et donc cette fosse-là, c'est l'unique fosse de pestiférés qu'on a en Île-de-France à ce jour.
Oui, oui, oui. Et alors là, on imagine que ce sont des pestiférés de toute confession, de toute religion. Il y a un colloque qui va se faire sur les nécropoles juives, c'est ça?
Après, on va avoir un colloque la semaine prochaine sur l'archéologie du judaïsme. Donc du coup, maintenant à l'INRAP, on a fouillé pas mal de sites en fait de cette confession-là, de ces périodes-là à l'époque médiévale, et donc on va pouvoir faire un vrai point en fait, faire un vrai point sur ce qu'on sait en fait de l'archéologie et ce qu'on sait en fait du judaïsme en France. On a pas mal de sites qui en parlent, et donc on a un très beau colloque la semaine prochaine qui va avoir lieu. On a aussi pas mal de colloques en 2022, donc pour les 20 ans de l'INRAP, également sur l'archéologie des Antilles. Donc on a comme ça, on a pas mal de sujets de recherche également sur le handicap. Donc comme ça, voilà, on est amené à l'INRAP de pas faire uniquement des chantiers, mais également d'avoir des colloques plus importants et des vraies thématiques de recherche. On va aussi avoir un colloque à la fin de l'année sur l'archéologie des nécropoles mérovingiennes. Donc là aussi, on va présenter de nouvelles méthodes, de nouvelles synthèses. Et donc voilà, je pense que 2022, c'est aussi le moment de faire un point réellement sur 20 ans d'archéologie à l'INRA professionnelle, et donc de sortir comme ça pas mal de résultats, de longs travaux de recherche de tous les collègues nationaux.
Oui, Cyril Le Forestier, donc vous serez présent sur ces colloques. On peut s'inscrire, vous savez comment ça se passe, non?
En fait, il faut
aller sur l'INRAP, le site de l'INRAP.
Voilà, puis après, il y a tout le déroulé pour. Donc en fait, c'est un petit comité parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais par contre, c'est en visioconférence, donc il y a moyen.
Donc on peut assister.
Depuis chez soi, regarder, assister au colloque. Comme beaucoup de colloques en archéologie, c'est souvent ouvert au public, c'est pas du tout fermé comme science, c'est ouvert à tout le monde.
Très bien. Merci Cyril Le Forestier. Vous nous avez présenté les 20 ans de l'INRAP qui fête son anniversaire, ses 20 ans justement. Cyril Forestier, vous êtes archéo-anthropologue et vous nous avez expliqué l'intérêt de ces fouilles préventives, de ces fouilles programmées en France métropolitaine. Merci à vous.
Merci à vous.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.